Voilà, j'ai presque pas besoin de prêcher ce matin, puisque le message est contenu dans les différentes manières qu'on a pu entendre. Maintenant, on termine donc cette thématique de 6 mois avec pour titre la générosité du disciple. Tout au long de cette semaine, on a vu les implications qu'entraîne le fait de décider de suivre Jésus. Et c'est un sujet qui est parfois difficile à aborder dans nos églises, et surtout nos églises françaises, c'est bien celui de l'argent et des dons. Dans le message, on va voir que notre générosité est le baromètre et l'indicateur de notre confiance en Dieu, de notre foi. Mais il détermine aussi, la générosité détermine aussi la place de Dieu dans nous. Premier point ce matin, si on peut envoyer le PowerPoint avec les versets. La générosité est le baromètre de ma confiance et de ma dépendance en Dieu. Commence la lecture dans Marc 12, versets 41-44. Jésus était assis vis-à-vis du trou et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches y mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le trou, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le trou, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors vous allez me dire ce matin, mais quelle est la différence entre la confiance et le baromètre? Le baromètre, c'est un indicateur de pression atmosphérique. Plus simplement, ça nous aide à savoir quel temps il va faire. Si les pressions sont hautes, le temps sera calme. Si les pressions sont basses, le temps sera instable. De la même manière, Jésus nous a laissé dans sa parole un indicateur qui est celui de la générosité. Dans ce passage, il donne à ses disciples, dans ce passage, on voit où il entraîne ses disciples et il nous montre ce qu'il attend de chacun d'entre nous à propos des finances et de la générosité. On voit Jésus qui s'assoit en face de l'endroit où les gens venaient déposer leurs offrandes à Dieu et Jésus observe. Et ce qui ressort de ce temps d'observation, c'est qu'il y a 2 façons de donner. La première est la suivante. Au sein de cette foule, il y avait plein de riches qui mettaient beaucoup. Et à la lecture de cette notion, on peut se dire, c'est génial. Ces gens mettent beaucoup parce qu'ils ont compris l'importance de donner en quantité pour Dieu afin de contribuer à l'extension du royaume de Dieu. Et puis ensuite, il y a cette femme qui s'approche, cette pauvre veuve qui arrive et qui ne dépose que 2 petites pièces. Les 2 petites pièces qui font toute la différence. Comptablement parlant, et vous pourrez nous en parler, l'apport de ces 2 petites pièces ne change quasiment rien à l'offrande totale. C'était 2 petites pièces de cuir, c'était la plus petite unité en vigueur à l'époque. Et Jésus va expliquer que la plupart de ces personnes riches ont mis de leur superflu, de ce qu'elles avaient en trop. Alors que cette dame a mis de son nécessaire, elle a mis de ce dont elle avait besoin. Ces 2 pièces, dans d'autres versions, vous avez 1/4 de sou, ça équivalait à 1/64 de denier, ce qui représentait le salaire d'une journée de travail. Le salaire, à cette époque, était versé à 2 journées. Donc on comprend que lorsque cette dernière donne dans le tronc, même cet argent dans le tronc, elle donne de son nécessaire pour se nourrir jusqu'à ses prochains jours. Cette dernière s'est privée de ce dont elle avait besoin pour vivre afin de l'offrir à Dieu. Elle avait une telle confiance en Dieu qu'elle a donné son nécessaire pour Dieu, croyant que lui prenait soin d'elle. Et on l'a entendu ce matin dans les témoignages. Dans le livre Les Fondements du christianisme, C.S. Lewis déclare que si nos dons n'entraînent pour nous ni privation ni gêne, je prétends qu'ils sont trop faibles. il devrait y avoir des choses que nous aimerions faire, lesquelles nous renonçons, parce que la somme consacrée à nos buts charitables en exclut la possibilité. Saint-Louis nous fait remarquer que le don entraîne un sacrifice, le don que le Père a fait pour l'humanité en envoyant Jésus à la croix pour mourir dans notre place. Ça lui a coûté quelque chose. Jésus qui donne sa vie, vous savez, on a chanté la grâce ce matin. La grâce, elle a eu un coût. Dieu a livré son propre fils, celui qui l'aimait par amour pour lui. Le don coûte toujours quelque chose pour quelqu'un. Le risque de cette histoire, eux, ils vous donnaient de leur superflu. Ça veut dire que ça ne leur coûtait rien de donner. Le problème n'est pas qu'ils soient riches. Le problème, c'est l'intention de leur cœur et leur dépendance à Dieu. C'est ça le problème. C'est l'intention qu'il y a derrière leur cœur. Celle qui n'avait rien a fait un plus grand pas de foi. Nous avons vu dans le tout premier message de la série, mais suivre Jésus, c'est faire de Jésus seul notre sécurité. Suivre Jésus, c'est faire de Jésus seul notre sécurité et notre sécurité financière. Et ceci s'est illustré dans une autre histoire, celle du jeune homme riche. Ce dernier interroge Jésus pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et Jésus lui répond, ben, applique les commandements. Et ce dernier sûr de lui et veut dire, je les ai déjà tous appliqués. Et là, ce que Jésus va répondre dans Matthieu 19, 21-24. Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qu'on voit dans les réponses de Jésus, c'est que Jésus ne définit pas ce qu'il faut faire pour être sauvé, mais il explore plutôt la condition du cœur de ce jeune homme. En refusant d'obéir, ce jeune homme nous révèle deux vérités. Déjà, c'est qu'il n'est pas irréprochable devant la religion, puisqu'il est coupable d'aimer ses propres biens, ce qu'il n'avait pas envie de perdre, sa propre personne, plus que son prochain. Et la deuxième vérité que nous voyons, c'est qu'il ne possédait pas la foi et la confiance en Dieu, qui est prête à s'abandonner pour obéir et suivre Jésus. Il ne possédait pas cette foi qui fait confiance en Dieu coûte que coûte. Jésus va mettre au défi cet homme de prouver son amour du prochain en puisant dans ses ressources et en s'engageant à le suivre. Jésus va dévoiler le cœur de cet homme qui se croyait bon en lui révélant son idole. Suivre Jésus, ça coûte. Suivre Jésus, ça coûte. Le pauvre Lazare, je le cite souvent, c'est un des professeurs de l'école biblique, dit « Beaucoup de chrétiens grincent des dents quand on parle d'argent, car on touche à leur Dieu. » Beaucoup de chrétiens grincent des dents quand on leur parle d'argent, parce qu'on touche à leur Dieu. Alors les chrétiens n'ont pas de problème qu'on leur parle de foi, que Dieu veut nous bénir, tout ça, et tout le monde dit « Alléluia, Amen ». Mais quand on parle de donner, ça devient plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on est en train de toucher à une idole. On est en train de toucher à un Dieu qui est présent. La question ce matin, c'est où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis dans ma démarche personnelle de dépendance et de confiance en Dieu? Où est-ce que j'en suis dans cette démarche de tout remettre à Dieu ma vie entière avec mon porte-monnaie, entre ses mains? Où est-ce que beaucoup de choses sont finalement sous mon contrôle, où je veux garder le contrôle? J'aime cette image de la renversée qui montrait une scène du baptême où le verre est partout le monde en dehors avec le bras qui sort de l'eau. Vous savez, quand vous vous engagez avec Jésus, c'est tout qui s'engage. C'est 100%. En fait, on ne peut plus être à 90% avec Jésus. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Ce que je pense ce matin, c'est que ma générosité détermine la place de Dieu dans ma vie et mes priorités. Elle détermine les places de Dieu dans ma vie, elle détermine aussi mes priorités. On relit le verset 44 de Marc 12, Je vous dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle en a mis de son nécessaire. On a vu que les personnes riches ont mis de leur superflu alors que la veuve a mis son nécessaire. Ça, ça nous démontre la priorité des uns et des autres. Le mot superflu se définit par le dictionnaire comme ce qui est de trop. Ces gars ont certainement dépensé pour leurs besoins, leurs petits loisirs, leurs petites envies, et puis ensuite, pas dans la charge de mes présents, je donne à Dieu. Cette dame a donné à Dieu en priorité pour contribuer à l'avancement de son royaume. Et elle s'est attendue à lui pour ses besoins en second lieu. Voyez la différence. Oui, voilà, ils ont fait toutes leurs petites affaires, tout ce qui allait bien, et puis après, voilà, maintenant je donne à Dieu. Elle a dit, je donne à Dieu, parce que je veux que son royaume avance, et je lui fais confiance pour le reste. Deux cœurs, deux façons de faire. En tant qu'économe de Dieu, nous n'avons pas pour but l'équilibre financier. Ce n'est pas le but de pourquoi on a été créé. Nous utilisons les dons venant de Dieu, on l'a entendu dans les témoignages ce matin. L'argent qu'on a, c'est Dieu qui nous accorde. Le travail qu'on a, c'est Dieu qui nous accorde. La santé que nous avons, c'est Dieu qui nous permet. Nous utilisons les dons venant de Dieu pour produire un impact qui s'étendra au-delà de notre existence personnelle. Le but, c'est pas notre nom. Le but, c'est lui. Et son nom, un nom qui est proclamé. Jésus-Christ, il y a un livre qui s'appelle l'argent, Dieu ou don de Dieu. C'est vraiment le bon livre. Si vous vous posez un peu des questions par rapport au silence, comment j'investis, comment je mets de côté, comment je déplante, etc., c'est un super livre. Alors, vous avez tout ce qui s'affiche, donc je vous encourage, si vous vous posez des questions par rapport à l'argent et à sa gestion, c'est vraiment un très bon livre, donc je vous encourage à lire pour ceux qui s'intéressent. Donc, c'est intéressant dans la façon de la veuve d'agir par rapport à ces gens-là, c'est qu'on est bien loin de l'évangile de prospérité qui circule et qui gangrène nos milieux pentecôtistes, nos milieux charismatiques, et qui fait donner de l'argent pour de mauvaises raisons. Et j'aimerais qu'on aborde quelques mauvaises raisons de donner de l'argent ce matin. Tout d'abord, l'argent que nous avons et que nous donnons est une grâce de Dieu. Donc, ce que nous lui donnons n'est en fait qu'une partie de ce qui lui appartient déjà. On l'a entendu tout à l'heure, Bernard nous disait, nous sommes juste des gestionnaires des finances du ciel. Nous sommes responsables, intendants de l'argent que Dieu nous confie. Ne donnez pas de l'argent pour acheter la faveur de Dieu. Ne donnez pas de l'argent pour essayer que Dieu vous bénisse encore un peu plus. Ne donnez pas 100 euros pour en recevoir 1 000 ou 10 000. Faire ceci révèle que notre priorité n'est pas Christ, mais que notre priorité c'est nous-mêmes. Puisque nous donnons avec intérêt. Par contre, la Bible déclare autre chose. Matthieu 6, 33, recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Jésus a donné cette réponse à ceux qui s'inquiétaient de la nourriture et du vêtement. Ceci est la promesse de Dieu. Il prend soin de nous. Il pourvoit à nos besoins. Dieu reproche à son peuple, aussi bien dans l'ancienne alliance que dans la nouvelle alliance, ce problème de priorité. C'est-à-dire, deux versets, trois versets dans le prophète Malachie. Chapitre 1, verset 6 à 8. Dieu parle par la bouche du prophète, il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Et il pose la question, si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez Dieu. Et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous avez vu la force de l'aveuglement? C'est qu'ils ne se rendent même plus compte que Dieu n'est pas à la bonne place dans leur vie. Ils ne se rendent même pas compte, ils disent, mais Seigneur, en quoi avons-nous méprisé tout le monde? Et il dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. quand vous offrez un sacrifice une bête aveugle, un esclave, quand vous en offrez une boiteuse ou un esclave, offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Verset 12. Mais vous, vous le profanez en disant la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Ils sont déjà en train de penser ce que ça peut leur rapporter devant Dieu. Vous savez, l'évangile de la prospérité, la Bible nous dénonce de l'ancien au Nouveau Testament. Tous les chapitres, toute la Bible en parle. Dans Matthieu 14, maudit, et là c'est Dieu qui parle. Regardez le poids des mots, maudit sur le trompeur qui a dans son troupeau un âne et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Ce chapitre de Matthieu dévoile le cœur du peuple qui offrait à Dieu des bêtes aveugles, des bêtes malades, des bêtes chétives, c'est-à-dire de faible constitution, qui étaient toutes maigres. Ces bêtes offertes à Dieu avaient une moindre valeur. Dieu leur demande, il leur pose la question, est-ce que vous offririez ça si Emmanuel Macron vous demandait que vous soyez? Est-ce que vous sortiriez le vieux truc, ça fait 3 semaines que c'est au frigo? Et le pire, ceux qui sont capables d'offrir ça, dans verset 12, ils se plaignent encore parce qu'ils disent, mais ta bénédiction, Seigneur, n'est pas là. Donc, ils donnent du pourri et ils veulent du meilleur. Ils donnent à Dieu des offrandes de bon niveau dans le but d'être bénis et non pour honorer Dieu. Quelle est la priorité? Est-ce que je donne pour être béni ou est-ce que je donne pour honorer l'Éternel? Verset 14, Dieu parle par la bouche du prophète, les appels trompeurs. Certainement parce qu'ils gardaient le meilleur bétail pour Dieu et offraient les restes à Dieu. C'est intéressant de voir qu'on parle de malédiction, maudit soit trompeur. Et le Nouveau Testament nous relate quand même l'histoire d'Ananias et Saphira, qui ont menti sur les valeurs de ce qu'ils avaient vendu et qui ont subi un jugement de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Est-ce que ma générosité traduit ma priorité pour Dieu et pour moi? Est-ce que je lui donne, ou alors est-ce que je donne à Dieu les restes? Je ne veux plus. Je vais raconter le témoignage de mon ancien leader de jeunesse qui a fait deux expériences assez fortes par rapport à ça, par rapport aux finances. Il était avec son épouse une fois et ils avaient dépensé un peu plus d'argent que prévu pendant le mois, avec plus que de raison. Et alors ils ont commencé à se poser la question, bon, ben, si on ne donne pas la dîme sur la fille, peut-être qu'il y a moyen qu'on rentre dans le frais. Donc ils commençaient à réfléchir par rapport à ça. Ils se disent, mais ce n'est pas juste vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas juste. Donc, du coup, d'essayer de compenser en donnant moins les deux pour rétablir l'équilibre financier. Et ils se sont dit que ce n'était pas normal de faire ça. Ce n'était pas normal que Dieu soit la victime de leurs erreurs. Alors, ils ont fait leur don. Et dans la semaine qui a suivi, ils ont reçu une enveloppe du montant exact de ce qu'ils avaient donné à Dieu. Ils n'ont rien perdu. Deuxième expérience qu'ils font, ils organisent un camp d'évangélisation où ils avaient investi financièrement avec tous les jeunes de leur propre poche. Et après, ils ont fait, ils ne pouvaient plus partir en vacances à cause de toutes ces dépenses. C'est intéressant parce que Yves, tout à l'heure, qui parle là-bas, il a parlé aussi de ce contexte de vacances. Ils ne pouvaient plus partir en vacances et puis là, tout d'un coup, il y a un cousin de Bretagne qui téléphone et qui leur dit si vous voulez, vous mettez gratuitement à disposition d'un appartement pour les vacances. Alors, ils étaient tout contents. Mais ça ne réglait pas le problème du budget pour les frais de vacances, péage, licence, nourriture, petit loisir, etc. Et là encore, ils ont reçu un truc qui est arrivé avec la somme dont ils avaient besoin pour passer les vacances. Dieu est fidèle et peut même prendre en compte nos besoins de vacances. Amen. Même nos besoins de vacances, Dieu les prend en compte. Un autre petit événement cette semaine, je suis une jeune qui s'est fait baptiser il n'y a pas très longtemps. Et justement, on parlait des finances, puisqu'elle suit les cours, en plein deux disciples. Et par rapport à la finance, elle dit une fois là, ben, je n'ai plus rien pour les patrons, donc il ne me restait plus que 15 euros en poche. Et elle est arrivée à l'église et elle a dit, je vais tout mettre. C'était ces 15 derniers euros qui lui restaient. Elle dit, ben, si je donne ça, c'est fini pour un moment. Elle a mis les 15 euros dans le fond. Dans les semaines qui ont suivi, elle a reçu une bourse de plus de 600 euros. 15 euros dans la poche. Le Seigneur a multiplié et a pourvu parce qu'il connaissait son enfant, il connaissait les besoins de son enfant. On ne parle pas de donner pour recevoir, on parle de faire confiance à Dieu, qui lui prend soin de nos besoins. Ça, c'est l'évangile. Ceci nous conduit à une réflexion sur où est-ce que je dirige mes dons. Où est-ce que je mets mes dons? Troisième point ce matin, la destination et le montant de ma générosité. La destination et le montant de ma générosité. Toujours une citation de Jimmy Manson dans le livre L'argent, Dieu ou de lui, en tant que chrétien, notre générosité devrait en fait s'étendre bien au-delà de l'Église. Mais ne jamais exclure l'Église. L'Église n'est pas une organisation, l'Église est une famille. Le fait de donner pour des causes ou des œuvres charitables sans passer par votre Église dénote de votre part une mauvaise compréhension de ce qu'est l'Église ou encore de la négligence. J'aime comment Nelson illustre son propos dans son livre. Il dit : que diriez-vous si vous voyez la père de famille qui travaille d'arrache-pied pour gagner de l'argent ? Et tout cet argent, il le donne pour tous les enfants de la rue. Et à côté de ça, il donne rien pour ses propres enfants. Alors, il donne tout son argent pour pouvoir nourrir les autres, mais ses propres enfants n'auraient rien du tout. La priorité du chrétien quand il donne, c'est de contribuer au bien-être de l'Église et de sa mission prioritaire d'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus à notre peuple. C'est la seule espérance durable, c'est la seule espérance universelle et c'est la seule espérance réelle. C'est l'Église qui a été choisie pour véhiculer ce message. Mais aussi, c'est l'Église qui a une mission de soutien concret pour apporter, pour répondre aux besoins des gens qui justement sont dans le besoin. Une petite parenthèse aussi ce matin, parce que peut-être plusieurs qui êtes nouveau dans l'Église ne savez pas trop comment ça fonctionne, la gestion financière. Alors, rassurez-vous, si tes pasteurs ne nous donnent pas plus en fonction de l'augmentation de l'assistance, mais on gagne pas moins en fonction de la diminution de l'assistance. En tant que pasteur, nous ne nous occupons pas de l'argent et nous ne remplissons pas les poches à la fin du culte quand vous êtes partis. Et là, les petits paniers, je vais pouvoir y plonger ma main tout à l'heure. Ce n'est pas pour moi. Il y a un trésorier, on l'a vu lors de la personne de Freddy ce matin, et il y a un conseil d'administration qui se réunit, qui se rassemble, qui est composé de membres de l'Église, des gens qui sont investis pour le royaume de Dieu. C'est eux qui votent les différents budgets, c'est eux qui votent les salaires de pasteurs et des employés de l'Église. Nous, nous ne mettons pas le nez dans les finances de l'Église. Alors, on entend souvent aussi dans nos églises que la dîme, qui représente un montant de 10% de ce revenu, était un concept de l'Ancien Testament, mais plus du Nouveau. Alors, je viens de répondre que si le vrai, c'est un concept de l'Ancien Testament, le texte que nous avons lu tout à l'heure nous montre que la générosité va bien plus loin. Alors, si tu n'as pas envie d'appeler ça dîme, ne l'appelle pas dîme. Le Seigneur t'attend quand même au tournant. Ça parle de l'intention de notre richesse humaine. Alors, une petite citation quand même qui est importante, c'est que la loi de l'Ancien Testament exigeait que le peuple de Dieu donne la dîme. Mais en incluant les actes de bienfaisance, les sacrifices sur le temple et les autres charges, le montant total allait jusqu'à 25%. Alors, on est revenu à 10% ou pas? Le Nouveau Testament encourage les dons sans toutefois donner de chiffres précis, puisque le don est une question de cœur et de confiance en Dieu, comme nous l'avons vu. De Corinthiens 7, qui est la suite de ce que Bernard a cité tout à l'heure, le verset 6, dit que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, donner 10% de son salaire sans être un bon point de départ. Pour la plupart des gens, ça représente un montant qui nous incite à être fidèles dans le domaine des finances. Mais selon les circonstances, 10% ne serait pas suffisant, et puis pour d'autres, 10% ça sera trop. Craig Rosenberg dira aussi, les chrétiens occidentaux les plus riches étaient honnêtes sur l'étendue de leur excédent et donneraient beaucoup plus que 10%. Autre parenthèse, nos églises sont reconnues d'utilité publique, ce qui donne le droit à des réductions fiscales. Ceci, ça devrait être un élément de plus pour nous motiver à la générosité. Si vous avez plus d'infos par rapport à ça, allez voir votre trésorier. On a le droit à des déductions fiscales. Vous savez, si un jour on les supprime, il faut quand même donner le juste qu'on lui doit. Donc ça nous encourage à voir que ça existe, à être fidèle dans notre générosité. Pour conclure, la Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est intéressant parce que la bénédiction qui est liée n'est pas liée à quelque chose de matériel, mais à quelque chose de spirituel. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je donne terrestrement pour recevoir une bénédiction céleste. Bien sûr que Dieu prend soin de nos besoins physiques, matériels, comme on l'a dit, mais la bénédiction qui est promise, et il a cité aussi le verset tout à l'heure de Bernard, qui dit que tout ce qu'on est ici sur terre, c'est atteint par la rouille. Mais ce qu'on sème pour le royaume de Dieu, c'est éternel. C'est des vies changées et transformées par Jésus-Christ. C'est une place qui s'est comptée pour l'éternité. Et chaque personne ne pourra nous enlever. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quelle joie de pouvoir être participant avec Dieu de son œuvre de salut pour l'humanité. Manifestons notre confiance en Dieu par notre générosité et nous verrons que Dieu prend soin de nous. Amen. Psaume 37, 25 nous dit : j'ai été jeune, j'ai vieilli. Et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants manger leur pain. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, que Dieu vous bénisse. Si on peut terminer par un chant, ce matin on va reprendre le chant Esprit de Dieu qui dit « Je veux être l'Église que ton cœur désire. » Et puis sur votre cœur ce matin, on va se mettre debout à sa place pour que tu puisses dire « Seigneur, je veux être fidèle parce que mon cœur, mon but, ce n'est pas de recevoir la prospérité. Mon but, c'est d'être l'Église, le corps de Christ en action, qui fait la différence, qui permet que l'Évangile soit proclamé, annoncé, et que la vie de Jésus vienne transformer des vies tout autour de moi. Si c'est votre cœur ce matin, le reprend comme une prière, comme une proclamation.
Pour le médecin de ce matin, qui vient conclure toute une série dans laquelle tu nous éclaires et interpelles. Nous te demandons de notre cœur, Seigneur. Merci de nous aider à concrétiser aussi cet amour. Merci à toujours garder notre cœur propre pour toi. Pour les bonnes raisons et les bonnes motivations. Merci de nous aider à rester au milieu, à nous donner. Pour donner avec joie, à tout servir avec joie. Tu nous dis dans ta parole, servez l'Éternel avec joie. Merci de renouveler cette joie, de renouveler ta présence en chacun d'entre nous. Merci de souffler sur nos vies comme nous venons de le faire, de souffler sur ton Église. Nous rentrons ce qui est juste, nous rentrons ce qui te plaît, ce qui est agréable à Dieu. votre bon Seigneur, de tout notre cœur, de manière imparfaite certainement, mais de tout votre cœur à chacun et à chacune. Merci de bénir ton Église, de la faire rayonner pour que le message de l'Évangile soit entendu partout, ici à Strasbourg, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages.